Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
C'est parti pour l'Intégral Sport. Bonjour à tous et bienvenue sur RMC avec un magnifique samedi après-midi de direct qui nous attend. Les directs ont déjà débuté. Vous suivez notamment le tournoi de Teddy Riner et de Julia Tolofoa depuis la fin de matinée. On va retourner à Doha dans un instant. Nos deux représentants qui sont qualifiés tous les deux pour les demi-finales, et ça ne va pas tarder pour Teddy Riner. On sera également dans quelques minutes au Mans pour la première course du Grand Prix de France Moto, la course sprint qui débutera à 14h. On suivra notamment les Français Quartararo qui n'a pas brillé ce matin lors des essais pour le Grand Prix de demain. Nous serons également tout à l'heure à Rouen pour le match de Ligue 2 entre Quevilly, Rouen et Bordeaux. Bordeaux qui s'approche de la Ligue 1, mais attention parce que Metz s'accroche à ses basques. Et puis également match de top 14 important, notamment pour l'USAP Perpignan qui reçoit Toulouse avec l'espoir évidemment de bien figurer, de rester encore en top 14 la saison prochaine. Tout cela sans oublier en route pour Paris 2024. Nous serons dans quelques minutes avec notre hurdleur Martino Lagarde, notre hurdleur qui est spécialiste évidemment de 110 mètres haies, Pascal Martino Lagarde, qui nous attend et qu'on rejoindra dans quelques minutes. En attendant, nous repartons pour Doha. Ça y est, le fauve est de retour. Pas le temps de souffler pour Teddy Riner. Les cadences infernales pour notre champion Morgane. Et Morgane n'a presque plus de voix. Il va falloir tenir jusqu'à ce soir à raison de deux combats toutes les 10 minutes. C'est rude, hein, mon cher Morgane.
Ouais, tu l'as dit, Teddy Riner qui monte, il est déjà en sueur sur le tatami face à Temur Akhimov, le Tadjik. Il est numéro un mondial. Il n'est pas champion du monde, Akhimov, mais c'est le champion des tournois. Il va sur tous les tournois. Il fait les places, Teddy Riner! Le grand Teddy Riner est de retour! Seconde de match! Araigoshi, le poids levé! L'empereur est en finale pour aller chercher son 11e titre mondial! Rien à dire! Akhimov, incrusté dans le tapis!
Magnifique, l'hippon fantastique de Teddy, c'est son premier gros fait d'arme depuis le début de la journée. Jusqu'à présent, il était un peu en mode diesel. Morgan est là, il a ressorti le grand jeu, Teddy Riner.
Oh, il a gardé le meilleur pour la fin, il était à 20 minutes de combat. Il nous a enchaîné deux prolongations terribles contre le Mongol et contre le japonais Tatsuru Saito. Et Akhimov était impressionnant depuis ce matin, il avait battu le deuxième japonais. Première prise de garde de Teddy, je n'attends pas, je tourne le dos, je tracte fort, je lance un Araigoshi et j'incruste Akhimov dans le tatami. Ça fait hippon, Teddy Riner est en finale. Ce sera contre l'ouzbek Yusupov ou le russe sous bannière neutre Inal Tasoev.
C'est impressionnant Teddy. Alors on le disait, Morgane, c'est vrai qu'il avait beaucoup donné depuis le début de ce tournoi, tout au long de la journée, avec des combats très longs. On sait que c'est pas le plus jeune des combattants, bien au contraire, et c'est très bien là qu'il ait pu abréger ce combat en quelques secondes seulement, hein.
Ouais, c'est super, super, parce que on le voit dans ces journées de championnat du monde où les matchs sont extrêmement ramassés. Vous pouvez l'avoir jusqu'à 6 combats dans la journée, 5 le matin et la finale derrière. Eh bien, il faut essayer d'aller au plus vite parce qu'on laisse beaucoup de cartouches. Eh bien, Teddy Riner s'est relevé de 3 prolongations même. Il y avait celle au deuxième tour et il s'est économisé en vue de participer à la finale. On connaît son adversaire, Christophe. Ce sera le Russe Inal Tasoev sous bannière neutre qui vient de jeter sur le dos l'Ouzbek Yusupov. Ce sera le dernier match de la soirée, c'est à partir de 18h heure de Doha, 17h en France. À mon avis, ce sera autour de 18h pile heure française, 18h10 peut-être, pour voir Teddy Riner pour tenter de décrocher sa 11e étoile mondiale face au Russe Inal Tasoev.
Bon, il va pouvoir se reposer un petit peu, reprendre des forces, parce que il a beaucoup donné depuis ce matin.
Il va aller manger, il a son paquet de bonbons dans son sac qui est toujours là, et surtout avec Armel O'Brien, sa kiné, il y a un travail spécifique autour des avant-bras, c'est la priorité pour Teddy Riner parce qu'ils engorgent de sang extrêmement rapidement. Et ensuite peut-être une petite sieste aussi, profiter de sa famille, hein, parce que sa famille est venue en nombre, ça permet aussi de se couper de l'environnement de la compétition, aller penser à autre chose et ensuite revenir pour cette finale contre le Russe Inal Tasoev qui est très fort, il faut le rappeler. La Teddy Riner, ce ne sont que des cols hors catégorie qu'il a depuis les huitièmes de finale.
Son tableau est incroyable aujourd'hui, hein. C'est l'un des tableaux les plus difficiles qu'il ait jamais eu à affronter dans des grandes compétitions, Morgane.
Oui, lorsqu'il était peut-être à son fait lors des années 2012-2013, il n'avait pas une telle génération face à lui. Là, c'est extrêmement compliqué. Les Russes ont été autorisés il y a quelques jours à venir sur ces mondiaux. Ils en ont envoyé deux. Il y avait deux Japonais, le Géorgien, l'Ouzbek que Riner a battu au tournoi de Paris qui vient de perdre en demi-finale, le Tadjik qui est numéro un mondial. Et là, il faut avoir de l'appétit pour s'avaler tout ça en une journée, Christophe. Voilà, c'est vraiment une belle génération qu'il a affrontée.
Bon,
c'est très fort.
En tout cas, il marque les esprits. Il montre qu'il est de retour et qu'il sera évidemment le client numéro un pour les Jeux Olympiques chez lui dans un peu plus d'un an maintenant à Paris. Il lui reste encore un combat, une finale à disputer tout à l'heure aux alentours de 18h pour aller décrocher un 11e titre de champion du monde. C'est du jamais vu, évidemment, dans l'histoire de cette discipline. Et Teddy Riner, Morgan, n'est pas seul parce que chez les plus de 78 kilos, chez les filles, on attendait Roman Dico, mais on en a une autre à la place, Julia Tolofua, qui elle aussi a fait forte impression depuis le début de ce tournoi et qui a évidemment, en plus d'un éventuel titre de championne du monde tout à l'heure, l'occasion de mettre la pression sur Roman Dico parce qu'on rappelle qu'il n'y aura qu'une Française qualifiée pour les Jeux Olympiques et on a une grosse densité dans cette catégorie. Hein.
Et ouais, Christophe, la nature a horreur du vide. L'an dernier, Roman Dico entendait la Marseillaise à Tashkent. Julia Tolofua était troisième sur le podium quand même, a été à côté d'elle. Roman Dico perd au premier tour sur l'Italienne Tavano et Julia Tolofua sort une grosse journée. Elle a battu la Néerlandaise, battu la Brésilienne sur un magnifique mouvement. Et dans un instant, elle va monter face à la Chinoise pour aller en finale des plus de 78 kilos. Peut-être une très belle journée pour les Bleus. Les parents de Julia sont dans les tribunes. Il y a Jean-Luc, son père, ancien rugbyman de bon niveau en Fédérale 1, notamment à Bastia. C'est l'homme le plus musclé de la salle, je pense, Jean-Luc Tolofua. C'est le plus musclé
cousins,
de la salle.
Les cousins qui sont en top 14.
Et les cousins qui
les
sont à Toulon et à Toulouse. Christopher
Tolofua. Ouais, évidemment, ce sont de sacrés clients, eux aussi. Et j'imagine que toute la famille doit être derrière sa championne, Julia Tolofua. Sa demi-finale, c'est dans combien de temps
C'est dans une minute, Christophe.
Ah, c'est dans
une minute. Le combat d'avant était expédié par la Brésilienne. Pas le temps de se reposer.
On va rester avec toi évidemment pour vivre cette demi-finale. On passe une belle journée quand même, Morgan. C'est bien. Déjà une médaille d'or ou d'argent à assurer pour Teddy Riner et sans doute une médaille supplémentaire si évidemment Julia s'impose dans quelques minutes dans cette demi-finale des plus de 78. Elle est largement au-dessus des 78 kilos, hein, d'ailleurs, Julia. Hein.
Oui, elle pèse autour de 130 kilos, Julia Tolofua. Ouais. Mais c'est une catégorie où il y a vraiment une variété de physique. Vous avez des petites rondes, des petites fines, comme Anne-Sophie Mondière à l'époque, hein, qui dépassait à peine 80 kilos. Vous avez Émilie Andéol, qui était de taille moyenne et qui était un peu ronde. Et vous avez Roman Dico, qui est un peu plus grande, qui fait 120 kilos, qui est plus musclée. Et Julia Tolofua, qui est de ce gabarit-là. Voilà, jeune fille très musclée, qui a des habiletés aussi qui est capable d'être assez rapide. Mmh. Elle monte sur le tatami, Christophe, face à la Chinoise Xu, qui est 10e mondiale, Julia est 7e mondiale, la Chinoise qui est coachée par un Français, Jean-Pierre Millon. Ça part dans 20 secondes.
Oh là là, beau bébé aussi, la Chinoise, un véritable cube qu'il va falloir déplacer et mettre au sol. On compte évidemment sur Julia Tolofua, cette grande championne française qui donc aujourd'hui fait mieux que Roman Dico qui était très déçu tout à l'heure, elle qui a été battue dès son entrée en lice dans la compétition. C'est parti pour cette demi-finale, Morgan.
Ouais, Julia Tolofua qui n'a pas attendu pour lancer sa première attaque. Elle a posé assez facilement ses mains et son grand fauchage intérieur au Uchigari qui est l'une de ses armes fortes. Elle arrive à projeter la Chinoise. La Chinoise tombe à plat ventre, mais c'est un signe, Christophe. Elle est capable d'imposer sa garde, la Française Julia Tolofua, à la Chinoise Xu, et même d'attaquer. Elle est placée encore une fois la main au col de son adversaire. Elle a piégé la manche droite de son adversaire. C'est parfait. Maintenant, il faut tracter pour aller lancer une attaque. La position est gelée. Il n'y a que Julia Tolofua qui essaye de bouger un tout petit peu, de faire un petit travail de jambes, d'aller taper dans les chevilles pour déstabiliser Xu, essayer de créer le chaos chez la jeune femme qui doit peser 125 kilos, Xu Xian. 3 minutes 13, 0-0, on est bloqué sur la bordure du tatami. C'est Julia qui a la position dominante sur les mains, Julia Tolofua, mais elle n'a pas attaqué. C'est dommage, elle était peut-être un peu timorée. Elle a senti qu'il fallait ne pas se risquer au contre parce qu'elle est à l'aise dans les contres, cette combattante chinoise. La première minute est passée, 0-0, Julia Tolofua qui se tient bien droite. Elle a la main au revers de son adversaire, elle essaye de prendre la manche droite. C'est l'objectif, Christophe, dans ces matchs entre gaucher et droitier. Celui qui est droitier, comme Julia Tolofua, doit aller prendre la manche droite de son adversaire. Comme la position était gelée, qu'on n'attaquait pas, l'arbitre, monsieur Jean-Claude Jimby, donne une pénalité aux deux jeunes femmes. 0-0, un carton jaune partout. Le reste, 2 minutes 40 dans cette demi-finale des plus de 78 kilos au championnat du monde.
On a vu beaucoup de combats se terminer justement aux pénalités. Hein. Il y a eu assez peu de hippons, en tous les cas, dans les tableaux des Français et des Françaises depuis ce matin, Morgane.
Oui. Ah ben avec Teddy Riner, on n'a pas été servi par les Hippons à part en demi-finale, Christophe. Mais c'est aussi une manière de gagner. L'arbitrage aussi a beaucoup évolué et permet ces victoires par pénalité. Attention, Julien Tolofua est en bordure. Il faudrait se décaler légèrement sur la droite parce que là, c'est une position dangereuse. Si la Chinoise la pousse, elle peut être pénalisée, la Française. La Chinoise qui fait pas grand-chose. Julien Tolofua qui essaye d'être un tout petit peu plus active. Là, elle a tenté un raigoshi, un mouvement de jambe en tournant le dos. Vous venez faucher la jambe extérieure de votre adversaire. Mais ça manquait de niaque. Ça manquait de peps pour faire tomber la Chinoise. Elle est un peu plus active, il faudra en mettre un tout petit peu plus pour exacerber la mollesse de la Chinoise parce qu'elle n'est vraiment pas sur l'attaque la judoka chinoise. Mais la preuve, c'est qu'elle se fait pénaliser, Christophe. Deux pénalités contre la Chinoise, une seule contre Julia Tolofua. On est à la moitié du match, 0-0. C'est bien le décalage de pénalité.
Morgane, est-ce que comme en boxe l'allonge est importante en judo, parce qu'on voit que Julia est beaucoup plus grande que son adversaire et donc a des bras plus longs que la Chinoise, est-ce que ça compte, comme ça peut compter en boxe?
Bien sûr, c'est la même chose. Il faut attirer l'autre dans ta zone de confort. Toi, refuser d'aller dans la zone de l'autre et l'attirer dans la tienne. Mais il y a souvent le judo, c'est aussi le petit qui bat le plus grand, qui passe en dessous. Elle est capable de ces mouvements d'épaule, la Chinoise. Donc il faut vraiment être prudente. Et voilà, elle a failli lancer un mouvement d'épaule, justement. Elle s'enhardit, la Chinoise. Elle avait la main placée sous le coude de droit de Julia Tolofua. Et elle s'en est servie en le levant comme appel, comme déséquilibre pour essayer d'attirer la Française à elle. Et Julia Tolofua qui reprend cette fois-ci une position dominante. Elle fait baisser la garde de la Chinoise. Elle a bien la manche droite de la Chinoise dans ses pognes. Malheureusement, elle vient de lâcher Julia Tolofua, la Chinoise qui attaque un peu plus. Ça y est, elle s'est réveillée, elle a compris ce qu'il fallait faire pour gêner la Française. Julia Tolofua qui est dos à la zone rouge, il faut faire un petit pas chassé pour décaler. Tentative de travail sur les jambes de la Chinoise. Julia Tolofua qui vient enfin monter sa main au col, elle jette un uchimata. C'était bien fait, c'était sa plus belle action du match. La Chinoise qui est restée tankée sur ses jambes. Julia Tolofua qui tombe à genoux, elle est encouragée par Amandine Bouchard, les Français qui s'époumonnent en tribune. 0-0, c'est la dernière minute de cette demi-finale, Christophe.
Dernière minute de cette demi-finale, pour l'instant léger avantage à la Française puisque la Chinoise a été pénalisée à deux reprises contre une seule fois pour la Française. Si la Chinoise est une nouvelle fois pénalisée, Tolofua sera en finale, Morgane.
Oui, mais il peut se passer encore beaucoup de choses en 40 secondes. Il y a beaucoup de renversements de situation. Julia Tolofua qui est en tout cas très concentrée. En tout cas, elle essaie de bien répéter le plan que lui a donné Christophe Massina avec cette main droite qui doit être derrière à la ceinture. Ça y est, elle a la main sur le dossard de son adversaire. Ça, c'est parfait. Maintenant, tracter, tirer, déplacer, aller tourner. Et la Chinoise a senti le danger. Elle s'est tout de suite jetée au niveau des jambes de son adversaire. C'était pour faire casser la prise. Une sorte de, peut-être une fuite en avant. Mais en permettant ça, en faisant ça, la Chinoise. Elle a permis de desserrer l'étreinte de Julia Tolofua. C'est vraiment dommage parce qu'elle était placée, la Française.
20 secondes. Ça peut pas valoir une pénalité, ça, de refuser.
Non. Elle a quand même, l'a pas mal fait. La Chinoise qui part en grand fauchage intérieur au Chigari. Julia Tolofua qui tombe à genoux, heureusement. Heureusement. Ça y est, la Chinoise est dans le match. Christophe, il y a danger. Les 15 dernières secondes avant de basculer en prolongation. Ça risque d'être très, très chaud. La Chinoise a compris comment contrer le système Tolofua. Il va falloir être un peu plus surprenant sur la prise de garde. Ça y est, on est en prolongation. Christophe, 0-0. La première qui marque a gagné. Si la Chinoise est pénalisée, c'est Julia Tolofua qui passe en finale.
Et ça peut durer très longtemps, ça, évidemment. Hein.
Jusqu'au bout de la nuit, Christophe.
Il n'y a pas de temps à partir pour le Golden Score. Tu restes là jusqu'au bout de la nuit, tu es bien avec nous. Et tu nous fais
prends
vivre, évidemment,
les la Chinoise émotions. Qui attaque sur la jambe de Julia Tolofua, c'était bien fait. Elle part sur un mouvement d'épaule et elle vient tourner la jambe droite dans le creux du genou de Julia Tolofua pour la faire basculer vers l'arrière. Julia Tolofua qui résiste. Mais c'est la Chinoise qui est la plus dangereuse, Christophe, en ce moment. Elle arrive à mieux bouger, Julia Tolofua, qui met un peu de temps à déclencher entre le moment où elle pose les mains et le moment où elle va lancer une attaque. Il faut aller plus vite. Alors c'est normal, il y a 4 minutes de combat pour ces organismes qui pèsent 130 kilos. Ça commence à fatiguer, mais il faut vraiment y aller au courage, appliquer le plan et réagir vite. Nouvelle attaque d'épaule de la Chinoise. Elle essaye d'enrouler la Française qui tombe à plat ventre. La pénalité contre Julia Tolofua n'est pas loin. Et Christophe Massina qui lui demande d'aller mettre du punch, d'aller presque donner un coup de poing en allant chercher la garde. Deuxième pénalité contre la Française, Christophe. Attention, la prochaine pénalité est éliminatoire.
Deux pénalités partout. Donc la prochaine adversaire qui commettra une erreur sera éliminée et n'ira pas en finale. Donc il faut tout donner maintenant. On est dans le Golden Score depuis maintenant une trentaine de secondes, Morgane.
Ouais, là, il faut faire tomber aussi, Christophe. Faut pas chercher le jeu des pénalités. La Chinoise, elle peut être tactique. Elle peut aller chercher cette façon-là de l'emporter. Mais Julia Tolofua, faut la jouer franche. C'est comme ça qu'elle a gagné ses combats, la judoka de Corse. Il faut aller mettre la main dans le dos et attaquer. C'est celle que fait l'attaque. Mais la Chinoise tombe à plat ventre. La meilleure attaque du combat de Julia Tolofua, c'était celle-là. Ce Hashiguruma, vous tournez le dos, la jambe au niveau du genou de votre adversaire pour le faire basculer. La Chinoise tombe à plat ventre. Mais c'est ça, Christophe. Il a manqué quelques degrés. Elle était vraiment pas loin. Il faut faire exactement cette action.
Ce qui est dingue avec le judo, c'est que ces gestes-là sont plus impressionnants que des pénalités que tu peux prendre. Mais c'est jamais récompensé, ce genre de truc. Alors que tu fais tomber ton adversaire. Mais on rappelle qu'au judo, il faut faire tomber son adversaire sur le dos, autrement ça compte pas.
Ouais. Sur le dos, sur le côté, ça c'est à la lutte où ça peut marquer en étant à plat ventre. C'est pour ça que c'est compliqué le judo, que c'est un art martial. Christophe, c'est de l'art de projeter l'adversaire. 5 minutes 23 dans cette demi-finale. Julia Tolofoa qui a la main droite au revers. Mouvement d'épaule de la chinoise. Elle essaye de faire tomber Julia sur le côté qui reste bien stable sur ses jambes. La position qui est toujours debout. Julia en fauchage. C'était bien fait. Grand fauchage extérieur au Sotogari. La chinoise qui résiste. On se rend coup pour coup, Christophe, dans cette demi-finale des plus de 78 kilos.
Ah, c'est tendu. Beaucoup de tension évidemment entre les deux jeunes femmes qui, on le rappelle, ont été pénalisées à deux reprises chacune. Donc la prochaine qui fera une petite erreur, eh bien, sera éliminée, à moins évidemment que ce soit une attaque victorieuse. Et on l'espère pour Julia Tolofoa, la Française qui a pris le relais de Romain Dico aujourd'hui. Il reste quelques petites secondes encore à disputer. On l'espère que Julia va arriver à mettre à mal cette Chinoise.
Ça y est, elle a mis la main au col, comme Christophe Massina lui demandait. Elle a capturé la manche de son adversaire. C'est parfait. Il faut bouger. Il faut déséquilibrer. Il faut tenter, Julia Tolofoa. Allez, faire quelque chose. Le premier travail de jambe en Uchimata. Elle a fait réagir la chinoise. Encore une fois, avec un grand fauchage intérieur. C'est la chinoise qui essaye de se redresser. Julia Tolofoa, la main à la hanche. C'est bien fait. Elle la tourne sur le côté. Elle est Wazari. L'arbitre donne Wazari. Est-ce que Julia Tolofoa est en finale? Le bras écarté. Attention, Christophe. J'annonce Wazari. L'arbitre a annoncé Wazari. Mais va peut-être y avoir une séance vidéo pour savoir si elle est bien tombée comme il fallait sur la tranche, la chinoise. C'est toujours ça pour ces matchs en jeu. C'est Wazari. Julia Tolofoa est en finale. Le clan français qui exulte, Amandine Bouchard, Blandine Pont, qui sont debout dans la tribune. Voilà Julia Tolofoa. Elle était troisième l'an dernier. Elle va faire mieux cette année. Christophe, elle est en finale. Ce sera contre la japonaise Akira Sone, championne olympique, ou la coréenne Kim Hee-yoon. C'était long. C'était un thriller. Et Julia Tolofoa qui, bras écartés, presque les bras en croix, qui vient d'en terminer avec la chinoise. C'était un vrai chemin de croix, ce match, mais elle s'en est sortie. Ce sera l'or ou l'argent pour elle. Et Christophe Massina, dès qu'elle est sortie du tatami, front contre front pour la mentaliser.
Tu peux pas la soulever de bonheur, c'est pas possible.
En vue de la finale tout à l'heure, la finale de Julia Tolofoa vers 17h20. Christophe, finale des plus de 78 kilos contre la japonaise championne olympique ou la sud-coréenne Kim Hee-yoon. Deux Français en finale, donc avec Teddy Riner aussi en plus de 100 kilos.
Ça va nous faire une belle fin d'après-midi. Super, Morgane, bravo aux Français et aux Françaises. Donc Riner et Tolofoa qualifié pour la finale chez les lourds, 17h20 pour Tolofoa et sans doute aux alentours de 18h pour Teddy Riner. Vous ne louperez rien évidemment avec notre commentateur hors pair Morgane Maury, qui sait de quoi il parle. Il a la ceinture noire lui aussi et a fait un paquet de compétitions. Merci Morgane, à tout à l'heure. Il est 14h23, dans un instant on continue de tourner les pages de notre actualité olympique. On sera avec notre ami Martino Lagarde qui va nous parler de sa préparation, Pascal, qui dans la saison en plein air a déjà débuté, et il va nous parler de tout ça dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
Et après cette très belle séquence judo, je vous rappelle que Teddy Riner et Julia Tolofoa se sont tous les deux qualifiés pour la finale de leur catégorie chez les lourds. Et bien nous allons poursuivre avec l'actualité olympique. C'est en route pour Paris 2024.
En route pour Paris 2024
avec la team RMC.
Terminer sa carrière sur une médaille d'or, on sait que c'est le rêve de Teddy Riner, qui en attendant va peut-être aller décrocher une nouvelle médaille d'or mondiale tout à l'heure. Et terminer sur une médaille d'or ou une médaille de n'importe quelle couleur, je pense que ça ferait également plaisir à notre hurdleur Pascal Martino Lagarde, qui est avec nous, membre de la team olympique RMC. Salut Pascal.
Salut à vous.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Bah, bien. Pascal, 31 ans, tu fais presque figure de jeune homme à côté de Teddy Riner. Mais le même rêve que lui, hein?
Bon, je suis pas si vieux que ça, quand même.
Dis donc,
j'ai 31 ans, 10 ans de carrière.
C'est parce que j'ai lu qu'on prenait un peu pour le grand frère, là, en équipe de France, 10 centimètres et sur les...
Bah oui, justement, en fait, j'ai cette étiquette de Pascal le grand frère, parce que tous les jeunes talents finalement qui sont arrivés ces derniers temps, ils ont tous mais genre 5 voire 10 ans de moins que moi. Alors ça n'enlève pas qu'ils vont quasiment aussi vite, hein, mais pour le coup, j'ai un peu cette casquette de grand frère.
Bon, je sais pas si tu as eu le temps de suivre la compétition de Teddy Riner, mais c'est magnifique de rester performant après 30 ans. Ça demande plus de travail finalement. finalement que quand on est en construction, qu'on monte vers les années entre 25 et 30. Toi, tu sens que tu as la même force, la même marre, la même vitesse qu'il y a 4-5 ans lorsque tu remportais des titres ou des médailles sur tous les championnats.
Alors, je commencerai par dire que j'adore voir des champions qui perdurent dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut mettre un peu les champions dans deux catégories. T'as ceux qui réussissent à faire une année éclair, qui battent tous leur record un an et qui finalement n'arrivent pas à y arriver très longtemps. Ils n'arrivent pas à répéter ses exploits. Et il y en a qui, donc comme Teddy Riner, ça fait une décennie qu'on est avec lui, qu'on voit des excellents résultats. Et voilà. Donc voilà. Et la question, est-ce qu'on est le même à 25 ans ou à 30 ans? Je pense que le moteur est le même. On a toujours la capacité de faire de grosses, grosses choses. Mais c'est les périphériques qui vont un petit peu plus. Être un peu faiblard de temps en temps, faut changer un pneu, changer une rechute, changer les freins, mais sinon le moteur, je pense que le moteur est toujours là, autant pour lui que pour moi, ouais. Et il va nous le montrer dans peu de temps.
Le moteur de Martino Lagarde, c'est un moteur Ferrari et qu'on va voir évidemment encore à l'œuvre cette année. Alors, Pascal, où en es-tu de ta saison? La saison en plein air a donc débuté. Il y a eu un premier meeting de Diamond League il y a quelques jours. Et il n'y avait pas toutes les disciplines, hein, puisqu'on rappelle que ça tourne un peu sur tous les meetings. Les grands débuts du 110 mètres haies, ce sera à Rabat, je crois, dans moins de deux semaines.
Exactement.
Est-ce que tu en seras? Est-ce que tu en feras partie? Et comment se qualifie-t-on justement pour disputer ces meetings de la Diamond League qui sont en quelque sorte le gratin, qui concerne le gratin, qui sont les épreuves de Ligue des Champions, hein, si on veut faire un comparatif avec le foot?
Bah, c'est un peu ça, hein. Je vous donne rendez-vous du coup au meeting de Rabat fin mai. Ce sera mon entrée, ce sera ma première course de la saison. Là où j'en suis, c'était une excellente nouvelle parce que ça fait à chaque fois plusieurs années que je vous fais la fameuse histoire de la blessure de début de saison et le comeback en fin de saison. Là, cette année, il n'y a pas.
Ah bah
cette année,
bon,
j'ai fait une belle préparation. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un mois d'avril qui s'est pas bien passé. Donc voilà, je suis super content et donc je suis d'attaque pour le meeting de Rabat. Maintenant, comment on accède au meeting de Diamond League? Alors, peut-être que je vous l'apprends, chers auditeurs, qu'on a mis en place il y a pas si longtemps que ça ce qu'on appelle le ranking.
Ouais.
Et le ranking est devenu de plus en plus important pour se qualifier pour les grands championnats. Et en fait, les meetings Diamond League sont les meetings qui vont rapporter le plus de points au ranking. Et donc, c'est hyper important d'y participer. Et pour le coup, là, ce sera que l'ancienneté qui fera foi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait des belles performances et qu'on a peut-être un palmarès derrière, c'est là où on va réussir à rentrer dans les start list de ces Diamond League.
Et ce sont les organisateurs qui choisissent, qui sélectionnent les athlètes, ou alors ça se fait uniquement au ranking? Là, par exemple, pour Rabat, toi, je crois que tu es numéro 15 mondial au ranking, c'est ça, Pascal?
Aux alentours de ça, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a comment bosse le manager, parce que quand on s'y prend tôt, quand on réussit à faire, il y a peut-être un peu de copinage. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de couloirs qui se négocient au bar en prenant des bières entre managers.
Ah, d'accord, ça marche comme ça, en attitude.
Mais en gros, quand il y a, je sais pas, le meeting de Rabat, bah, ça négocie les couloirs pour le meeting de Lausanne ou Paris quelques semaines plus tard, etc. Donc, je ne connais pas exactement, avec certitude, le choix des athlètes. Mais en tout cas, généralement, ce qui est sûr, c'est que quand on a un pays qui accueille, par exemple Paris, on va avoir un petit peu plus de poids pour mettre des Français dans le meeting. Voilà, il y a certaines choses qui influencent, mais grosso modo, ce sera toujours les plus gros athlètes qui seront en priorité. Et après, faut se battre. Faut se battre pour avoir un couloir.
Exactement. Et alors, quand on part, parce que tout le monde n'a pas la chance de participer à ces meetings de Golden League, d'autres athlètes passent par des meetings de niveau inférieur, c'est ça. Et là, tu peux obtenir quand même des points qui te permettent de monter dans le classement.
Exactement. On a une grille où les plus gros meetings, donc les Diamond League, rapporteront beaucoup de points et vont vraiment vous favoriser au niveau du ranking. Derrière, il y aura les meetings Gold, les meetings Silver, etc. Et grosso modo, ces meetings sont classés avec des exigences. C'est-à-dire que quand on est dans une Diamond League, c'est-à-dire qu'il y a des exigences au niveau du stade, de l'hébergement, de la nourriture. Il y a plein de choses à remplir et financer aussi pour rentrer dans ces meetings-là. Mais en réalité, ce qui est important, c'est éviter. Enfin, pourquoi on a mis en place ce ranking ? C'est éviter qu'on ait des sortes de performances sorties de nulle part dans des endroits inconnus. On va dire de la personne qui fait son petit saut en longueur dans son jardin et qui dit waouh, regardez, j'ai fait une perf incroyable. Ouais. Là, venir faire des rankings, bah ça force un peu les athlètes à venir dans des meetings certifiés et des meetings où on sait que les perfs seront homologués, pas bizarres et voilà, vraiment.
C'est une manière loyale de surveiller en quelque sorte. C'est un peu aussi, ça fait office de surveillance des performances qui pourraient être un peu étonnantes. Le ranking mondial, Pascal, où il y a finalement assez peu de Français qui occupent les premiers rangs. Est-ce que pour toi c'est une vraie bonne photographie du niveau mondial ce ranking, ou alors c'est encore perfectible?
En fait, il y a plusieurs réponses possibles, simplement parce que regardez, je vais prendre mon cas. Imaginez qu'on a un Pascal Martin Lagarde qui a absolument l'habitude de se faire des lésions musculaires en début de saison.
Mm-hmm,
ça veut dire que cet athlète-là, voilà, cet athlète-là, finalement, ne fera pas beaucoup de grands meetings.
Oui.
Mais par un gros travail acharné, réussira à faire une belle fin de saison et finalement ne sera pas hyper bien ranké parce qu'il n'aura pas fait la tonne de meetings qu'il faudra, mais aura quand même des performances de pointe intéressantes. Donc il y a du oui et non. Oui, le ranking, ça sert un petit peu à classer les athlètes, à avoir une vision de l'athlétisme mondial, mais rien n'est une certitude. Si on raisonnait en le numéro 1 du ranking, c'est le numéro 1 mondial, des fois on se tromperait, et dans ce cas-là, si c'était une certitude, on distribuerait les médailles directement sans même courir au ranking.
Bon, eh ben, il vaut mieux courir pour aller chercher des médailles, remporter les meetings et ensuite se qualifier pour les grands championnats. On rappelle qu'il y aura les championnats de France et évidemment les championnats du monde en août prochain. Donc la montée en puissance de Pascal Martin de Lagarde va se faire petit à petit. Ton entrée en matière, tu l'as dit, ce sera donc au meeting Golden League de Rabat au Maroc. Et puis ensuite, évidemment, il y aura le meeting de Paris où là, tu seras très attendu, ainsi que tous tes copains du 110 mètres. Ouais. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir parler de ta préparation. On prendra évidemment régulièrement de tes nouvelles et on viendra te voir un peu, notamment avant le meeting de Paris qui va être un grand rendez-vous avant les championnats de France. Merci Pascal.
C'est avec plaisir.
C'est toujours un bonheur de discuter avec toi et puis en plus tu nous expliques bien la situation, comment ça se passe. Très bien, merci Pascal. Autre rendez-vous important de ce week-end. Alors, il fait pas partie de la team RMC, mais on suit, vous savez, tous les athlètes qui sont en préparation pour les Jeux Olympiques. Il était donc ce week-end à Yokohama, au Japon, à l'occasion de la deuxième étape du World Triathlon Championship Series. Et il a pris la quatrième place, cette nuit, au Japon. Dorian Coninx, qui est avec nous, le triathlète français, donc quatrième de l'épreuve. Bonjour, Dorian.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Il doit commencer à être un peu tard au Japon. Je ne sais pas quelle heure il est là.
Avec plaisir. Il est 21h30, mais après une course comme ça, de toute façon, on met un peu de temps à trouver le sommeil.
On n'arrive pas à dormir après un triathlon aussi intense. Dorian, tu échoues au pied du podium, mais tu confirmes en tout cas ta grande forme du moment. Tu avais déjà fait cinquième il y a quelques semaines. Ça va, la forme est là et c'est de bon augure pour la saison et notamment pour aller chercher la qualification olympique dans peu de temps. Hein.
Ouais, bah c'est vrai que je finis vraiment pas loin du podium. D'ailleurs, c'est un peu frustrant parce que ça s'est vraiment fait dans les 200 derniers mètres. Plus rien pour finir et la dernière ligne droite a été un peu longue, mais c'est vrai que ça fait deux belles courses coup sur coup. Ça confirme le travail de cet hiver, qu'on est dans la bonne direction et en début d'année pré-olympique, on va dire, c'est vraiment de bon augure pour la suite.
Alors on a vu avec Pascal Martin de Lagarde comment ça se passait pour l'athlétisme sur piste, hein, avec la saison qui commence, les grands meetings, les championnats de France puis les championnats du monde. Comment c'est organisé au niveau du triathlon, Dorian ?
Par rapport à la qualification.
La saison, comment elle se décompose ? Ouais, d'une manière générale.
Alors de manière générale, nous on a donc il y a un titre de champion du monde qui est décerné chaque année. Qui se joue sur un circuit, donc il y a 7 manches plus la finale et nos 4 meilleures manches, donc les scores qu'on va marquer sur nos 4 meilleures manches plus le score qu'on va marquer sur la finale s'additionnent et c'est comme ça qu'ils font le classement à l'arrivée. Donc nous, pour le championnat du monde, il n'y a jamais de course d'un jour, c'est toujours ce classement. Et donc en tout cas pour ma part, je trouve que pour moi ça corse un peu les choses parce que ça demande beaucoup de régularité et d'être en forme vraiment toute la saison, quoi.
Tout au long de la saison. Ça sert à rien de gagner un triathlon et de terminer 30e la fois d'après. Il faut mieux être dans les 4-5 régulièrement. Je crois que ta place aujourd'hui te permet de te qualifier aussi pour le test event qui aura lieu à Paris dans quelques mois. Ce sera au mois d'août. Là, ce sera décisif pour les Jeux Olympiques. C'est ça? C'est là-dessus que tu vas aller chercher la qualif?
C'est ça. En gros, on avait deux courses de qualif. Celle-là et une dans deux semaines. Il fallait faire top 5, donc c'est juste bon. Et au moins, c'est fait sur la première, donc je vais arriver plus tranquille dans deux semaines. Donc ça, c'est cool. Et voilà, je vais courir le 20 août à Tokyo sur le même parcours que les Jeux. Et le 18 août, pardon. Et s'il y a podium, il y aura une qualification pour l'année d'après. Et donc, ça permettra d'être qualifié bien en amont et de pouvoir se préparer sereinement.
Est-ce que, comme en judo, il y a un nombre de places réservées par nation pour les Jeux Olympiques? Parce que là, il y a quand même une grosse densité dans le triathlon français avec des garçons comme Vincent Louis ou Léo Bergère, qui est champion du monde en titre. Ou alors, selon vos résultats, on ne tient pas compte de la nationalité. Comment ça se passe?
Alors... En fonction des résultats, il y a plus ou moins de dossards, mais le nombre maximum qu'une nation peut avoir de dossards, c'est 3. Donc là, vu nos classements, pour le moment, on aura 3 dossards aux Jeux Olympiques, mais vu la densité qu'il y a en France, 3, c'est pas tant que ça.
Oui, c'est ça.
On est 4 ou 5 à courir sur le circuit mondial et à faire des bons résultats régulièrement. Donc c'est clair qu'il va pas falloir trop se détendre.
J'ai bien compris. Il y a trop de bons triathlètes en France. Hein. C'est vraiment un sport qui est très prisé dans notre pays. Dorian, pour finir, à Tokyo en 2021, tu avais goûté à la joie, au bonheur d'une médaille olympique. C'était dans l'épreuve mixte avec la médaille de bronze. L'objectif des Jeux à Paris, ce sera de goûter aussi à la médaille individuelle. Sans oublier le mixte, tu devrais être aligné sur les deux épreuves.
Ben voilà, si je me qualifie, je serai aligné sur les deux épreuves. Et c'est clair qu'en ayant goûté une troisième place en équipe, ça donne déjà envie de goûter à une médaille d'or. Et ça donne aussi envie de goûter ça tout seul. Donc ça fait des beaux objectifs, un beau challenge, surtout à la maison. Ce serait encore mieux.
Ce serait magnifique. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Dorian Coninx, donc triathlète français, 4e aujourd'hui à Yokohama, au Japon, qui nous faisait l'amitié de rester encore éveillé. Mais bon, on a bien compris avec l'adrénaline que déclenche ce genre de course, on n'est pas prêt d'aller se coucher. Merci Dorian, bon retour au pays.
Merci beaucoup et avec plaisir.
Et à très bientôt, évidemment. On reparlera de ce test event qui aura lieu au mois d'août prochain et puis les championnats du monde. Bref, on sait qu'avec le triathlon, il y a des possibilités de médaille importante. Merci Dorian Coninx. 14h41 sur RMC. Dans un instant, on continue de dérouler l'actualité olympique, qui est très, très riche ce week-end. Nous allons partir pour le Canet en Roussillon, où a lieu ce week-end un meeting Mare Nostrum avec notamment l'un des membres de la team RMC, Johan Endoy-Brouwer, qui fait son retour en compétition ce week-end après s'être blessé l'hiver dernier en faisant du ski. On va voir dans quel état il est. Julien Richard nous attend au Canet en Roussillon. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h45, si vous n'étiez pas avec nous, sachez que 2 Français sont qualifiés pour les finales de leur catégorie en judo. Le Français Teddy Riner, évidemment, c'était une attente très, très certaine. Et puis Julia Tolofua, également chez les filles, en plus de 78 kilos, qui s'est imposée, qui disputera la finale. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 17h20. Restez avec nous, vous suivrez ça avec Morgane Maury. On continue jusqu'à 14h50. On a 5-6 minutes encore pour poursuivre notre actualité olympique. On va prendre la direction de Canet en Roussillon, où a lieu ce week-end un meeting de natation Mare Nostrum, notre mer, la Méditerranée. Évidemment, Julien Richard ne pouvait pas louper ce grand moment, le premier des 3 meetings. Salut Julien.
Salut Christophe. Bonjour à toi, à tous.
C'est un temps magnifique au bord de la Méditerranée, il paraît.
Figure-toi qu'on est quand même dans une région, les Pyrénées-Orientales, qui souffre énormément.
Exactement, ça fait du bien, cette eau.
Qui, voilà, il tombe très peu d'eau ces derniers mois, sécheresse, des restrictions d'eau. Bah, il se trouve que la première journée, la première matinée, en tout cas, s'est déroulée sous la pluie au Mizing. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les habitants de la région.
Et c'est une piscine à découvert à Canet. Hein. C'est pas, on n'est pas à l'intérieur, sous les murs. Donc, c'est magnifique.
C'est, c'est la piscine des Jeux Olympiques de Barcelone qui a été déplacée après les Jeux, qui a été déplacée à Canet.
Ils ont enlevé le bassin et ils l'ont amené à Canet. D'accord, il a franchi la frontière.
C'est ce qui sera le cas d'ailleurs pour les Jeux de Paris où certains bassins seront déplacés. Des bassins temporaires seront installés un peu plus dans le département, notamment de la Seine-Saint-Denis.
Très bien. Julien, on s'intéresse à Johan Ndoye-Brouard qui fait partie de la team RMC, qui était avec nous à l'antenne la semaine dernière et qui nous parlait justement de son retour en compétition. Lui qui, on le rappelle, a été blessé en faisant du ski, c'était en décembre dernier. C'est son retour à la compétition ce week-end et c'est l'occasion de savoir où il en est parce que, évidemment, il y a des chronos, mais c'est tout de suite plus intéressant de se mesurer à ses adversaires. Ce sera le cas aujourd'hui, ce week-end.
Oui, c'est primordial. Un retour donc sous la pluie, 14 degrés. Il fallait mettre la parka et il y avait la concentration justement au moment de l'enlever, de se plonger dans ce bassin de Canet. Quatrième place des séries sur un 50 mètres d'eau, ce qui est pas sa distance de prédilection. Ça a duré moins longtemps que Teddy Riner, 25 secondes 90 centièmes pour le chrono de Johan Ndoye-Brouard. Évidemment, c'est loin de ses temps référence, mais l'essentiel n'était pas là. Donc, le plus important, après s'être fracturé le coude fin décembre. Après une chute en ski, c'était de reprendre enfin le contact avec la compétition, la confrontation, et puis tu sais, ces petites choses comme les ordres du starter ou encore la sirène de départ. Johan Ndoye-Brouard.
Ouais, ça fait du bien. Surtout, j'ai pas vu mon temps, je pensais voir mon temps à la fin, mais je voyais pas, j'étais trop loin. Mais non, ça fait du bien, et puis même d'être avec le groupe et tout, c'est trop cool. J'attendais ce moment depuis 5 mois. Hein. Donc, je suis content de revenir à la compète. Pas trop de sensations, mais justement, c'est ce qu'on a cherché là, des sensations avant les France. C'est compliqué de se jauger parce que je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je peux faire, mais d'aller le plus vite, essayer déjà de gagner ce soir. Ensuite essayer de gagner le 100 mètres d'eau, me confronter aux autres et voir où j'en suis, c'est ça un peu l'objectif. Ça va mieux, on va dire, mais j'en suis où, on va dire que je me fais plaisir et on verra après quoi.
Mm-hmm. Voilà, et on aura plus de réponses aussi à l'issue de ces trois meetings. Il y a la finale du 50 d'eau ce soir, demain le 100 mètres d'eau, et puis il y aura notamment aussi le meeting de Monaco avec une grosse concurrence notamment italienne, donc ça va lui permettre en tout cas de reprendre ses marques. Les temps de référence, ce sera assurément pour plus tard.
Et oui, on rappelle les championnats de France à Rennes mi-juin. Il a profité de ces moments où justement il n'a pas pu bouger son bras pour travailler le bas du corps qui était l'une de ses faiblesses, nous disait-il il y a quelques semaines.
Et il en a profité pour se blesser justement parce qu'il y a eu c'est les choses que quand on reprend il s'est réathlétisé, mais on pousse parfois un peu fort sur des endroits où on travaillait pas, donc il y a eu notamment aussi, on s'est découvert qu'il y avait un souci au poignet qui avait pas été réglé au moment de la chute, une désinsertion d'un tendon et puis une petite blessure au psoas, donc qui a aussi un peu retardé cette course contre la montre qu'il s'est lancé en vue des championnats de France mi-juin, les mondiaux cet été et surtout donc Paris 2024.
Très bien, merci beaucoup Julien. Donc tout au long du week-end à Canet, non pas au Canet comme je disais tout à l'heure, à Canet en Roussillon, il y aura évidemment d'autres champions français, Florent Manoudou est sur place et on suivra ça avec toi tout au long du week-end. Merci Julien.
Salut.
Bon après-midi sous la pluie de Canet en Roussillon. 14h50, on va avancer les infos et ensuite direction Le Mans. C'est le grand week-end sur le circuit Bugatti, le grand week-end, le millième Grand Prix de l'histoire sur le circuit Bugatti du Mans avec donc ce Grand Prix de France. La course sprint débute dans 10 minutes. On sera avec Paul Lafitte dans un instant.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h59 sur RMC, c'est l'heure des directs maintenant dans l'Intégral Sport. 4 directs nous concernent cet après-midi. On va dans un instant partir au circuit Bugatti au Mans pour la course sprint du Grand Prix de France Moto. On va également aller à Perpignan pour le rugby, le top 14, l'USAP qui reçoit Toulouse, coup d'envoi dans quelques instants. Le foot avec la Ligue 2, Quevilly-Rouen, Bordeaux, là aussi débute dans quelques instants. Et puis nous aurons également un coup d'œil à donner sur la 8e étape du Giro en direction de Fossombrone aujourd'hui avec nos envoyés spéciaux. Pierre Abadon m'a rejoint avec tous ses directs. Pierrot, je ne sais pas si tu vas pouvoir analyser tout ça.
On va essayer.
Tu veux être meilleur sur quoi ? Sur le foot, le rugby ou la moto ?
Écoute,
le vélo peut-être. Traditionnellement, j'ai envie de te dire sur le rugby.
Quand on est à Joe Sport, on doit connaître tout.
Allez, on suit tout, on suit tout.
Bon, c'est un bonheur de t'avoir avec nous, évidemment. Il y a le tour de formation qui vient de s'élancer au Bigatti. On va d'abord assister au coup d'envoi du match de rugby, donc entre l'USAP et Toulouse. Julien Landry, salut Julien.
Salut Christophe, salut Pierre, salut à tous. Salut, effectivement, Julien. C'est à partir d'ici quelques secondes dans une ambiance extraordinaire, encore Corée Mégiral. C'est le sixième guichet fermé d'affilée ici au stade, mais parce que c'est la finale quasiment pour le maintien des Catalans qui savent que s'ils s'imposent cet après-midi contre le stade toulousain, ils seront quasiment assurés de disputer le barrage pour rester en top 14. Grosse tension, gros match en perspective ici à Mégiral. Il pleuvait ce matin, mais le soleil s'est levé pour le coup d'envoi ici à Mégiral. On va passer une belle après-midi, j'en suis persuadé.
Oh, magnifique, à Cano, en Roussillon, il pleuvait tout à l'heure, mais à Perpignan, il fait grand beau. C'est à n'y rien comprendre. Julien, un petit mot des Toulousains. On sait qu'ils ont été très déçus, évidemment, de leur élimination en Champions Cup. Ils sont en revanche qualifiés pour la demi-finale du top 14 directement. Quelle est la politique adoptée par Toulouse? Est-ce qu'on fait tourner aujourd'hui face à Perpignan?
Flamand, Dupont, Ntamack, Barassi, Delib sont absents. Ils sont absents. Voilà, on a fait tourner du côté de Toulouse. D'ailleurs, Patrick Arletas nous disait cette semaine, on était vraiment pour le stade toulousain, hein, au Leinster. On aurait vraiment aimé qu'ils gagnent pour qu'ils viennent en short aujourd'hui, en touriste ici à Mégiral. Malheureusement pour les Catalans, ils se sont imposés. Il manque un point aux Toulousains pour assurer leur première place. Ils veulent absolument finir premier, mais il leur restera un match dans 15 jours contre Brive pour assurer cette première place. Donc ils ont fait légèrement tourner leur effectif, mais ça reste quand même une équipe capable d'aller gagner au Racing, de faire des grosses performances malgré un gros turnover. Christophe, c'est parti depuis 2 minutes, 0-0.
À tout à l'heure Julien pour ce match. On part tout de suite pour Le Mans, le circuit Bugatti, le 1000e Grand Prix de l'histoire, le Grand Prix de France avec deux courses. La première, c'est dans un instant la course sprint, évidemment le MotoGP, le Grand Prix classique que vous vivrez demain sur RMC. Paul Lafitte est sur place, les motos sont dans les starting, ça va pas tarder à partir.
Oui, salut Paul. Christophe, salut Pierre, bonjour à toutes et à tous. L'occasion de faire un clin d'œil à mon camarade de jeu, Valentin Jamin, qui était également présent ici au Mans aujourd'hui. Effectivement, pour cette cinquième manche de la saison, la course sprint avec la pole position pour Pecco Bagnaia, le champion du monde. Face à lui, il y a Marc Marquez, il y a également Luca Marini, les pilotes qui sont en train progressivement de s'immobiliser, évidemment, sur cette grille de départ. On va rappeler le classement du championnat du monde avec l'Italien, le champion du monde en titre, qui est en tête devant Bezzecchi, Binder. Les Français sont bien plus loin, Christophe, 9e position pour Juan Zarco, la 11e seulement pour Fabio Quartararo, alors que les pilotes sont en train cette fois-ci de s'immobiliser sur cette grille de départ. Juan Zarco partira 9e et Berezina pour le pilote Yamaha. Fabio Quartararo seulement 13e, Christophe, de ses qualifications, qui n'a pas réussi à s'extirper de la Q1. La première séance de qualification, les feux sont au rouge, 21 pilotes sont au départ, le drapeau rouge et bientôt le drapeau vert et les feux rouges qui vont s'éteindre dans quelques petites secondes ici au Mans. Les conditions sont idéales, 21 degrés dans l'air, 37 degrés sur la piste, la poignée dans le coin évidemment pour tous ces acteurs. Et Pecco Bagnaia qui prend vraisemblablement le meilleur départ. Face à lui, il y a Marc Marquez. On scoutera également la quatrième position de Jack Miller, auteur de belles qualifications. Et c'est finalement, eh bien, sans encombre que le pilote Ducati va virer en tête au premier virage dans la chicane d'Unlop. Attention à Jorge Martin, le coéquipier de Juan Zarco, qui essaie de s'infiltrer en deuxième position. Il arrive, Jorge Martin, eh bien, sur sa Ducati du team Pramac, eh bien, à rester en deuxième position. La troisième position pour Jack Miller, la quatrième position seulement pour Marc Marquez, auteur du deuxième temps des qualification, et il est déjà chahuté dans le troisième virage par Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, mais il refait l'intérieur. Marc Marquez, on va regarder nos Français. Juan Zarco est en 10e position, 16e position seulement pour Fabio Quartararo. Mécontent, Christophe, encore une fois, ce n'est plus une surprise, hein, de sa Yamaha qui, malgré un gros moteur, eh bien, a un package aérodynamique qui ne fonctionne pas. Il n'arrive plus à freiner, il n'a plus de grip. Autant dire, ce sont bien des tâches compliquées pour le pilote Yamaha, champion du monde il y a deux saisons, vice-champion du monde, et qui pour l'instant donc n'est que 15e à l'issue de ce premier tour. Il y aura au total, Christophe, 13 tours à courir dans cette course sprint. Et tu le rappelais, demain évidemment, antenne ici à RMC au Mans pour ce 1000e Grand Prix MotoGP de l'histoire. Ce sera le 30e Grand Prix de France. Et donc à l'issue de ce premier tour, Christophe, Bagnaia est en tête devant Jorge Martin. Jack Miller était en 3e position, Marc Marquez en 4e position. On referme ce top 5, Luca Marini, les Français. Juan Zarco vient de reculer de deux rangs, il est 11e. Fabio Quartararo est au 13e rang, donc à l'issue de ce premier tour.
Très bien Paul, on te retrouve évidemment rapidement pour la suite de ce Grand Prix Sprint. Demain, RMC se déplace au Mans justement pour vivre la grande course. Nous serons en direct dès 9h dans les grandes gueules du sport avec des invités prestigieux. Giacomo Agostini, la légende vivante de la moto, sera avec nous. On parlera également de Fabio Quartararo. Nous serons également avec une autre légende, la Monsieur Le Mans, Jackie X, le Belge, qui, avant de débuter et d'exceller en course automobile, notamment sur les 24 heures, a également fait de la moto. Tout le monde sera réuni demain à partir de 9h au circuit Bugatti. On suivra la course à partir de 14h. Les autres directs avec le foot, c'est parti là aussi du côté de Rouen, Quevilly-Rouen qui reçoit Bordeaux. Christophe Lécuyer est sur place. Salut Christophe.
Salut Christophe, bonjour à tous.
C'est parti donc depuis quelques minutes. Match très important, notamment pour les Bordelais. Mais attention à ces Normands, mon cher Christophe, qui sont étonnants depuis quelques semaines.
Hein. Ouais, c'est le match de l'année, Christophe. C'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Chouafny, le coach de QRM. Pourquoi le match de l'année? Bien parce qu'on reçoit un club prestigieux qui joue sa montée, qui est obligé de nous battre, a dit Olivier Chouafny. On finit, nous, sans pression. Il fait beau, il y a du monde. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit le match de l'année, a dit cette semaine le technicien normand, qui, lui, c'est vrai, tu le disais, un peu se rapprocher du top 5 en cas de succès cet après-midi. Alors qu'évidemment, de leur côté, les Bordelais, en cas d'une quatrième victoire, feraient un pas supplémentaire vers la Ligue 1 en cas de succès cet après-midi au stade Robert Diochon. Et Bordeaux qui mettrait par la même occasion la pression sur Metz qui piste les Girondins au classement de Ligue 2. C'est parti depuis 6 minutes précisément, 0-0. Une seule occasion tout à l'heure à mettre à l'actif des joueurs de QRM avec cette frappe pied gauche de Balthazar Pierret. C'est passé à côté des cages de Gaëtan Poussin à la 7e minute de jeu ici à Diochon, 0-0 entre QRM et Bordeaux.
Merci, à tout à l'heure Christophe. Peut-être le premier essai de la partie pour le stade Toulousain, Julien. Ça va pas tarder, hein?
Il y aura en avant.
Ah, il y en avant, d'accord.
Ça fait deux fois que les Toulousains sont à un mètre de la ligne d'essai de l'USAP. Deux fois qu'ils font un en avant. Tout à l'heure, c'était Marchand. Là, c'est sur l'avant-dernière passe qu'il y a un en avant. Mais M. Charabas fait appel à la vidéo pour un limite, déblayage probablement un peu musclé. Avant, hein.
Franchement,
ouais, d'Alban Placine. Ouais, non, mais je pense qu'il y a surtout le déblayage d'Alban Placide, que Monsieur Charabas est en train de revoir à la vidéo où il est rentré sur le côté du ruck et il veut évidemment voir la zone de contact. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de zone de contact avec la tête, mais voilà, il a fait appel à son arbitrage vidéo pour un ruck, à mon avis, légèrement déloyal d'un Toulousain, ce qui pourrait entraîner une pénalité en faveur des Catalans, mais qui s'en sortent plutôt bien. Après 4 minutes de jeu, toujours 0-0, mais grosse entame des Toulousains. C'est Thomas Ramos, c'est d'ailleurs qui est à l'ouverture. On n'en a pas parlé, Christophe. Thomas Ramos qui ne souffle quasiment jamais, lui, cette saison. C'est assez incroyable, tant de jeux de Thomas Ramos à l'arrière avec l'équipe de France. Quand Ntamack est pas là, c'est lui qui joue à l'ouverture avec le Stade Toulousain. Ouais. Il n'a quasiment jamais soufflé, excepté quand il a été blessé en tout début de saison. Et c'est donc lui, encore une fois, qui est à l'ouverture aujourd'hui avec le Stade Toulousain. 0-0. Évidemment, la décision va être longue, même si là, M. Charabas devrait rendre sa décision. Et je vous conseille, petit conseil, de suivre le numéro 5 catalan, un petit futur ovni français. Il s'appelle Pozzolo Tuilagi. Tuilagi comme son papa, Henri Tuilagi. Ouais, Henri Tuilagi, phénomène du côté de l'USAP. Voilà, et c'est son fils qui est sur la pelouse. Et ben, je vous conseille de le suivre avec attention parce que ça fait deux mois qu'il est en train d'éclabousser.
Exactement. Et de Alessana.
Il y a une famille à rallonge. Hein.
Exactement. Eh ben, je vous le conseille de le regarder parce que ça fait deux mois. Ça fait deux mois. Et d'ailleurs, Patrick Arrêtas a dit
que j'ai tout le foie non plus.
Ah, il est dans la ligne. Ouais, je crois qu'il est dans la lignée de ses aïeux, je crois.
C'est ça. Et Patrick Arrêtas avait déjà dit j'ai déjà recruté son fils quand il aura un fils parce que ça sera forcément un grand joueur de rugby. Non, mais je vous conseille de le suivre. C'est un phénomène. Depuis deux mois, il éclabousse de toute sa classe le jeu de l'USAP. Il avait d'ailleurs été sélectionné avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Il avait marqué un essai contre l'Angleterre. C'est un phénomène. Il va vite. Il est puissant, il est capable de jouer avec ses mains. C'est tout simplement, à mon avis, l'un des futurs deuxième lignes de l'équipe de France d'ici quelques années, Pozzolo Tuilagi. 5 minutes ici à Aimé Giral, 0-0.
On a un autre.
Ah, mais un fou Tuilagi, je vous annonce que ça fera pareil. Ouais, aux
équipes c'est ce que j'allais dire. Il y a déjà un autre prétendant qui attend de récupérer.
Les deux ensemble, il ne faudra pas les prendre, les Français.
c'est bien d'avoir des terres au fin fond du Pacifique. Ça permet d'avoir des beaux bébés, des grands champions, que ce soit en judo ou en rugby, Pierre. Hein. Ouais. C'est vraiment
formats incroyables. Une famille qui a baigné dans le rugby depuis toujours. Hein. Je me souviens de l'avoir vu petit parce qu'il a été petit, on a du mal à l'imaginer. C'est un phénomène, tu l'as très bien dit. D'abord un physique hors norme, hein, comme son père, comme ses oncles, mais surtout une capacité de déplacement avec un physique pareil impressionnante. Et ça a déjà bénéficié à l'équipe de France de moins de 20. Maintenant, il faut qu'on le voit au meilleur niveau, en commençant en top 14, avant peut-être plus haut. Voilà, mais en tout cas, les Toulousains, pour l'instant.
Ah oui, ils sont là, ils ont fait
tourner. Ils ont pris par le bon bout, le match, et ça paraît difficile pour l'instant pour les Catalans de résister aux assauts toulousains.
Exactement. 15h09 sur RMC. Un petit détour par le Bugatti pour la course au sprint du Grand Prix de France avec Paul Lafitte. On est ton Paul.
Encore 9 tours à couvrir. Magnifique bagarre, Christophe, de chiffonnier avec, eh bien, pour la première fois, Jorge Martin, le coéquipier de Johan Zarco, qui a pris la tête. Eh bien, en deuxième position, Brad Binder, qui, eh bien, a doublé coup sur coup Pecco Bagnaia et Marc Marquez, deux champions du monde, s'il vous plaît. Lui, qui avait déjà gagné deux courses sprint depuis le début de la saison. La quatrième position. Position pour Marc Marquez, la cinquième pour Luca Marini. Les Français sont un petit peu plus loin, neuvième position toujours pour Johan Zarco. C'est un petit peu mieux pour Fabio Quartararo, qui a gagné deux places, qui est désormais onzième et qui bénéficie aussi de la chute lors du premier tour de Jack Miller sur sa KTM. Donc pour l'instant, Martin est en tête devant Binder, troisième position pour Bagnaia. Les Français sont donc neuvième pour Zarco et onzième pour Fabio Quartararo.
À tout à l'heure pour la suite et la fin de ce Grand Prix Sprint. 15h10, nous allons maintenant sur les routes italiennes pour le Giro d'Italia, le Tour d'Italie, huitième étape aujourd'hui entre Terni et Fonsombrone. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, Johan Bredo va me corriger, lui qui parle italien couramment, évidemment, depuis le temps qu'il vit en Italie, enfin qu'il parcourt les routes italiennes. Salut Johan.
Salut Christophe, salut à tous.
Fonsombrone.
T'es parfait en accent italien.
Ouais, non, mais Pierre est plus fort que moi, il a connu Dominguez et compagnie. Ouais. Ça a parlé italien et espagnol. Alors, mon petit Johan, huitième étape, que peut-on dire de cette étape? Une étape clé? Non, pas vraiment. Hein.
Non, pas vraiment. Pas une étape clé. Demain, ça sera un contre-la-montre, ça sera un petit peu plus que clé. Mais là, c'est une huitième étape. 207 km, il en reste encore 65 à parcourir et on va arriver justement dans la partie la plus intéressante. Il y aura trois difficultés qui vont s'enchaîner. Les Cappuccini, d'abord, un petit col de deuxième catégorie. La descente, puis on arrivera au pied du Monte delle Cesane. Cette fois, ça sera un deuxième catégorie. Là encore, on descendra une grande boucle pour reprendre les Cappuccini. L'arrivée se fera.
Ah, les Cappuccini, en bas. Ah, on boit du café là.
Eh oui, tout à fait. On va boire du café. En tout cas, ça va s'exciter un tout petit peu pour cette dernière partie d'étape. Il reste encore 64 km. On a 13 hommes en tête, parmi eux 3 Français. Valentin Paré-Peintre, le frère d'Aurélien, hein, qui s'est imposé sur la quatrième étape. Valentin,
qui est troisième au général, frère. Aurélien. Hein.
Aurélien est troisième, ouais, du général, tout à fait. On a François Bidard de la Cofidis et on a aussi Warren Barguil qui est là. C'est d'ailleurs lui le coureur le mieux classé au général. Il pointe à 6 minutes et 39 secondes du maillot rose, toujours porté par Andreas Leknessoun, le Norvégien de la team DSM, donc qui est toujours en tête, qui porte le maillot rose. 28 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et tous les favoris sont dans le peloton, donc ils pointent à 5 minutes et 50 secondes, 64 km à parcourir encore.
Très bien, à tout à l'heure Johan, on fait un petit tour des stades rapide, le temps, le score et les positions des pilotes. C'est le cas notamment au Bugatti au Mans, la 7 tours de l'arrivée de ce Grand Prix Sprint.
Oui, Roger Martin qui est en tête, Christophe, avec 1 seconde et 5 dixièmes d'avance sur Brad Binder. La 3ème position pour Marc Marquez, l'auteur de la pole position, le champion du monde en titre, l'italien Pecco Bagnaia est en 4ème position, 5ème Luca Marini, les Français sont loin, Johan Zarco 9ème, Fabio Quartararo 11ème.
Ah non, alors Quartararo il me semble qu'il est en train de se rapprocher, mais t'as dû louper le virage. Il est en train de se rapprocher, on verra ça dans quelques instants. Le rugby, le match entre Toulouse et l'USAP en déplacement à Perpignan, justement, les Toulousains, Julien.
Les Toulousains qui devaient valider leur temps fort de quasiment 10 minutes passées dans les 22 mètres du l'USAP, 10 minutes sans marquer d'essai, mais ils viennent de marquer cette pénalité par Thomas Ramos qui a décidé de prendre les points. Et donc après 10 minutes de jeu, c'est le Stade Toulousain qui mène 3-0 ici à Aimé Giral.
Et puis le foot, que Villiers on reçoit les Girondins de Bordeaux, Christophe Écuyer.
La 13e minute de jeu ici à Robert Diochon, toujours ce score de 0-0, mais une très belle occasion pour les joueurs du QRM avec Mafuta et le sauvetage in extremis et magnifique de Barbé, 0-0, mais très belle entame en tout cas pour l'instant des Normands.
Il est 15h13, vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport revient dans une petite minute, à tout de suite.
RMC, Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
Beaucoup direct au programme cet après-midi dans l'Intégral Sport. On part tout de suite sur le circuit Bugatti du Mans où on approche de l'arrivée de la course sprint, Paul Lafitte.
Oui, Christophe, il reste 4 tours à courir. Jorge Martin, le coéquipier de Johan Zarco, est en train de s'envoler pour peut-être sa première victoire en sprint. Lui qui a déjà gagné un Grand Prix en MotoGP, c'était il y a 2 saisons, compte quasiment 2 secondes d'avance sur Brad Binder. La 3ème position pour Pecco Bagnaia, le champion du monde en titre. Et c'est un véritable mano à mano magnifique sur ce bitume du Bugatti.
entre Marc Marquez et Bagnaia. La quatrième position donc pour l'instant pour Marc Marquez et la cinquième pour Luca Marini. Ça va un petit peu mieux, Christophe, tu le disais, pour les Français, avec la sixième position pour Joan Zarco et Fabio Quartararo qui est en huitième position et qui a bénéficié il y a quelques tours de la chute d'Alex Marquez, le frère de Marc Marquez. Donc pour l'instant, à quatre tours de l'arrivée, eh bien on se dirige vers une victoire pour le pilote du team Ducati Pramac, Jorge Martin, devant Brad Binder et Pecco Bagnaia. Les Français sont sixième avec Joan Zarco et en huitième position avec Fabio Quartararo.
Quartararo qui donne tout là, qui prend beaucoup de risques quand même, hein, à mon avis, Paul.
Effectivement, ouais. Alors que là, Christophe, eh bien, c'est un abandon certainement à venir. Il a chuté à l'instant. Eh bien, le pilote Yamaha. Quelle désillusion pour Fabio Quartararo qui avait vraisemblablement un problème sur sa moto et qui vient de se crasher alors qu'il était au ralenti, doublé par une meute de pilotes. Eh bien, son week-end avait mal débuté, on le rappelle, avec une 13e position sur la grille de départ et vraisemblablement il a perdu l'avant. Ouais, il a perdu l'avant. Le pilote Yamaha, et donc qu'il se retrouve au sol, il ne marquera pas de points et s'élancera demain en 13e position.
Une saison cauchemardesque pour Fabio. On en parlera demain d'ailleurs dans les grandes gueules du sport, mais rien ne va pour l'ancien champion du monde français qui vit vraiment une saison terrible. Et là, il avait fait un beau retour. Hein. On rappelle qu'il s'était lancé la 13e position tout à l'heure. Il était remonté à la 8e place avant donc que cette chute ne le jette à terre. 15h18, nous partons à Caen, c'est l'heure du quintet, c'est avec Fred Kita. Salut Fred.
Salut Christophe, salut à tous. Effectivement, c'est l'heure du quintet avec le numéro 15, hein, Onek, qui a pris l'avantage dans cette phase finale et qui s'est imposé devant le numéro 7, Hokkaido Giel, qui a bien fini son parcours. Et le grand favori, le numéro 16, étonnant, complète le podium après avoir animé la course. Mais il s'est fait devancer à la fin, ce numéro 16 étonnant, par donc ce numéro 15, Onek, qui s'impose devant le 7, Hokkaido Giel. La troisième place pour le numéro 16, étonnant. Ensuite, en net retrait, on a le numéro 8, Gently de Muse, qui va se classer quatrième dans cette arrivée. Et ensuite, côté corde, une cinquième place probablement, donc pour le numéro 14, Elie de Beaufour. Je récapitule l'arrivée provisoire du quintet, le 15 devant le 7, le 16, le 8 et le numéro 14.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Merci Fred, il est 15h19, le rugby avec ce match de top 14 très important pour l'USAP qui reçoit Toulouse cet après-midi. Évolution du score, Julien.
À égalisation des Catalans, 14 minutes à Aimé Giral, 3 partout entre Perpignan et Toulouse. C'est Toulouse qui avait ouvert le score, a pris une très grosse domination et les Catalans qui ont réagi et qui sur la mêlée, pourtant introduction Stade Toulousain, ont fait l'effort et ont récupéré une pénalité transformée par Tristan Teder. Le public catalan évidemment était déçu parce que Léon Lam est sorti sur protocole commotion parce que il a pris une sorte de manchette au visage sans que Monsieur Charabas ne fasse appel à la vidéo. Et lorsque on a estimé que il y avait commotion pour l'âme, on n'a pas compris pourquoi M. Charabas ne faisait pas appel à la vidéo. C'est un petit peu la même situation que la semaine dernière à Montpellier où Léo Colli également sorti sur civière sans appel à la vidéo. Parfois, Pierre, c'est surprenant que les TMO ne fassent pas appel aux arbitres sur le terrain lorsque des joueurs sortent sur protocole commotion, parce que ça veut forcément dire qu'il y a dû avoir un contact avec la tête.
Ouais, ça méritait peut-être vidéo, mais si j'ai bien vu l'image, je crois que c'est Rory Arnold.
C'était sûrement, c'est sûrement involontaire. Mais...
Ouais, et après, dans la chute, il reprend un coup sur la tête par Placine. Je pense que les deux sont involontaires. Hein. Roy Arnold se baisse. À mon avis, il serait. Enfin, on va voir ce que va dire le protocole, mais en tout cas, c'est plutôt bien payé pour les Catalans, hein, Julien, si je ne me trompe pas, parce que pour l'instant, ils sont dominés. Et 3-3 après un quart d'heure, ils s'en sortent plutôt bien.
Ah, ils ont eu 10 minutes très compliquées où ils n'ont pas vu le ballon, ils sont restés devant leur ligne d'essai, mais ils ont réussi à résister. Et puis là, comme souvent les Catalans, ils ont une opportunité en tout début avant le quart d'heure de jeu. Ils ont marqué les points et là ils récupèrent les ballons et ils sont en train de les relancer avec cet énorme coup de pied de Jack McIntyre dans ses 40 mètres. Un magnifique 50-22 trouvé par le numéro 10 de l'USAP qui va offrir une touche à 5 mètres de la ligne d'essai du Stade Toulousain. Ce petit coup de pied, il est tout simplement magique de Jack McIntyre.
Allez, on revient bientôt dans un instant. Le dernier tour sur le circuit Bugatti pour la course sprint, Paul Lafitte.
Oui, Christophe, avec Jorge Martin qui va vraisemblablement s'imposer, qui a 2 secondes d'avance sur Brad Binder. La troisième position pour Pecco Bagnaia, la quatrième pour Luca Marini et la cinquième pour Marc Marquez. Joan Zarco est en sixième position dans les échappements justement du pilote Honda Repsol. Et on rappellera la chute au 10e tour de cette course sprint de Fabio Quartararo, tu le rappelais, qui était parti en 13e position, qui avait manqué sa séance de qualification et qui avait vraisemblablement un problème problème mécanique et qui a perdu l'avant de sa Yamaha pour finalement chuter. Il ne marquera pas de points lors de cette course sprint. Et on rappelle que demain, eh bien, la grille de départ sera identique à celle du sprint, ce qui veut dire que Fabio Quartararo repartira en 13e position. Mais on va suivre évidemment la victoire à venir pour le coéquipier de Juan Zarco, ce qui veut dire que les Ducati, Christophe, sont imbattables, qu'elles soient officielles, celles de Bagnaia, qu'elles soient de team eh bien semi-officielles comme la VR6 avec Marco Bezzecchi qui s'était déjà imposé cette saison, ou encore par Jorge Martin qui devrait franchir dans quelques instants la ligne d'arrivée en leader donc de cette course sprint. Ce sera fait dans quelques instants donc pour le pilote espagnol. Magnifique bagarre, on a notamment suivi ce duel entre Bagnaia, Luca Marini et Marc Marquez, et c'est finalement le champion du monde en titre qui va glaner eh bien des points précieux dans la course au titre mondial, hein. Et le wheeling, la dernière accélération, il se lève, Jorge Martin, c'est gagné, Christophe, pour le pilote du team Ducati Pramac. La deuxième position pour Brad Binder qui marque encore de gros points, la troisième pour Pecco Bagnaia et qui va donc consolider sa place de leader du championnat du monde à l'occasion de cette course sprint. Le rendez-vous, ce sera, Christophe, évidemment demain pour la course du MotoGP. Les Français, ouais. Johan Zarco se classe sixième, et l'abandon, on le rappelle, de Fabio Quartararo, c'était au dixième tour.
Abandon de Quartararo et pas une grande performance de Zarco quand on sait que c'est son coéquipier chez Pramac Ducati qui vient de remporter la course. On est un peu pessimiste, hein, quand même pour la course de demain qu'on vivra en intégralité demain en direct du Mans. Merci Paul, à tout à l'heure, 15h23. Essai pour l'USAP, Julien Landry.
Exactement, essai de Jacques McIntyre. Il a quasiment tout fait sur cette séquence. C'est lui qui a trouvé cette extraordinaire touche avec ce coup de pied de 50 mètres. Et derrière, un lancement en première main, Medine Patrick Arletaz. On a été chercher en début d'alignement. On a feinté le groupe pénétrant. On est sorti rapidement sur les larges. On est passé derrière le dos de Dorian Laborde. Et c'est Jacques McIntyre qui a profité du surnom sur l'extérieur. On sait que Patrick Arletaz va quitter l'USAP à la fin de la saison. Que Fabien Galthié aimerait bien l'enrôler dans son staff pour remplacer Laurent Labitte, parce qu'on sait qu'il a beaucoup d'idées sur le jeu, Patrick Arletaz, et là il vient de nous en donner en tout cas une belle démonstration avec ce lancement de jeu en première main. Pierre, c'est rare de voir des essais en première main derrière les touches, et là c'est parfaitement construit par l'USAP, ce coup de pied de Jacques McIntyre, et derrière l'essai, ce qui permet à l'USAP d'être encore mieux payé que tout à l'heure, Pierre, en menant 10-3 après 18 minutes de jeu.
Ouais, effectivement, avec un beau lancement de jeu, hein, dans le bon timing, et surtout Dorian Laborde assez tranchant, hein, quand même côté USAP depuis le début de la rencontre, il gagne tous ses duels, donc du coup ça, il a redoublé, et derrière la passe au contact de Dorian Laborde, on fait la différence, donc c'est effectivement très bien payé, mais tant mieux pour l'USAP qui joue son maintien, on le rappelle Julien, mais c'est un match capital pour eux.
On rappelle que l'USAP est 13e actuellement du top 14, mais que Brive revient très fort. Ils sont revenus à 4 points, les brivistes. On rappelle que le 14e descendra en pre des deux, que le 13e jouera face au finaliste malheureux de la finale de Pro D2. Et donc le mieux, bah, évidemment, c'est d'aller chercher la 12e place, mais ce sera dur, hein, pour Perpignan qui est à 8 points de la section paloise. C'est un peu le Dandrico, ça, pour Perpignan. Hein.
C'est deux pays. Non, mais surtout que Brive, Christophe, c'est important, hein, le fameux point terrain sur l'USAP. Donc en cas plus, d'égalité, oui. Brive sera forcément devant l'USAP, et en sachant que Brive reçoit Castres cet après-midi, et ben les Perpignanais n'ont pas forcément le droit à l'erreur. Eux qui termineront du côté de Castres la semaine prochaine, quand les brivistes, eux, termineront à Toulouse. Donc ils affrontent les deux mêmes adversaires.
Castres et Toulouse, mais sont les juges de paix de cette
année. Avec un Stade Toulousain qui, selon le résultat d'aujourd'hui, sera peut-être déjà assuré de terminer premier. Voilà. Il y a aussi un enjeu direct.
Si Toulouse gagne, autrement.
Il faut que l'USAP gagne dans tous les cas pour se mettre à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas trop d'aller chercher la 12e place, c'est de sécuriser le match de barrage pour les Perpignanais.
C'est ça pour les Catalans.
La Rochelle qui jouera à Montpellier tout à l'heure à 17h, match que vous pourrez suivre évidemment là aussi sur RMC. Le football, la Ligue 2, là aussi on approche de la fin de la saison, là aussi on se dirige vers la relégation et surtout l'accession, pourquoi pas à la Ligue 1, pour les Girondins de Bordeaux qui se déplacent cet après-midi en Normandie face à Quevilly-Rouen, Christophe.
Ouais, 27 minutes de jeu ici à Diochon, c'est compliqué, hein, cet après-midi pour les Girondins de Bordeaux qui n'ont pas la partie facile, en cause évidemment la qualité de cette équipe de QRM qui joue bien, qui joue sans pression certes, mais elle pourrait jouer relâchée, hein, cette équipe d'Olivier Chouafny, mais pas du tout, comme à son habitude elle dégage beaucoup de sérénité. Il y a de bons joueurs, hein, dans cette équipe, on pense notamment à Balthazar Pierret, le jeune milieu de terrain de 23 ans qui déborde d'activité, on le sait pisté par des clubs de Ligue 1, et on comprend mieux au regard de l'importance qu'il a dans le 11 d'Olivier Chouafny, et les joueurs de QRM qui sont procurés d'ailleurs les plus belles occasions depuis l'entame de cette partie, avec tout à l'heure Bangré qui a sollicité une belle parade de Gaëtan Poussin après un très bon travail au départ de Mafuta. Bref, ils pourraient mener un but à zéro. Tant pour l'instant, ils sont convaincants dans leur prestation, les joueurs de QRM. Mais après 28 minutes de jeu ici à Diochon, le score est toujours de 0-0.
Très bien, une bonne nouvelle. Français champion du monde de boxe, Sofiane Oumia, s'est imposé il y a quelques minutes en finale des moins de 60 kilos. Sofiane Oumia, évidemment, qu'on avait découvert à l'occasion des jeux précédents et qui rêve évidemment d'y participer. Mais là, avec un titre de champion du monde, ça devrait le faire pour Sofiane. 15h27 sur RMC, le vélo, le Giro, le Tour d'Italie, avec toujours. C'est pas un Giro pour l'instant passionnant auquel on assiste, hein, Johan. Hein. Les positions ont été figées dès la deuxième journée avec le contre-la-montre. On rappelle que la dernière semaine sera là où se fera la différence avec des étapes en très haute altitude, notamment du côté des Dolomites. Mais alors là, chaque fois, c'est un scénario à peu près identique. Il n'y a pas d'attaque dans le peloton. Roglic ne tente pas de désemparer notre ami Evenepoel. Avec une info quand même importante, c'est l'abandon tout à l'heure de Filippo Ganna, le champion du monde du contre-la-montre, champion du monde italien, victime du Covid. Hein. Il n'y a que dans le vélo qu'on parle encore de Covid, Johan, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai dingue, que ça. Le Covid n'a pas abandonné le cyclisme. Hein. Il est toujours là, il est toujours présent. On l'avait vécu avec pas mal de coureurs de la Jumbo-Visma. Hein. D'ailleurs, l'équipe de Primoz Roglic avant le début du Giro, pas mal ont dû se retirer de la course parce qu'ils étaient positifs au Covid. Là, c'est Filippo Ganna, lui, qui était l'espoir de toute l'Italie pour s'imposer lors du premier contre-la-montre. Il a concédé 22 secondes à Evenepoel et surtout lors du contre-la-montre de demain, 35 km de plat, c'était taillé pour l'ancien champion du monde exercice. Donc voilà, c'est le Covid qui est toujours là. Il y a toujours son lot de polémiques avec le virus, parce que hier il y a eu une polémique sur cette arrivée en altitude. Certains coureurs ont dû prendre le téléphérique, les télécabines. Ouais, il y a eu l'hélicoptère, mais les télécabines pour certains coureurs au milieu du public et des journalistes. Ouais. Donc
pour la plèbe, on y va en on y va à pied avec les ânes.
Et pour les champions, le vélo à la main en plus. Hein, vraiment, le vélo à la main dans les œufs pour revenir. Non. Donc voilà, ça a eu son lot de polémique.
Bah oui, ça s'est passé comme ça ?
Eh oui, ah, ben c'est ça, grosse polémique, parce que certains coureurs, t'en parlais des hélicoptères, ont payé, en fait, l'organisation avait proposé de ramener tout le monde en hélicoptère, mais en payant, et certaines équipes, comme la Soudal Quick-Step, ont accepté de payer, mais comme toutes les équipes n'ont pas le même budget, hein, tu le sais très bien, Christophe, et ben forcément, ça a créé une petite disparité et une inégalité dans le traitement. En tout cas, l'UCI a pointé, a tapé de la main sur la table.
Ouais. Bon, bref, acheter un hélico et ils vont descendre tout le monde en hélico.
Exactement, ça va être ça maintenant.
L'armée russe.
Bon, voilà. Plus de Filippo Ganna. T'en parlais de cet ennui relatif là pour l'instant sur cette première semaine. Les favoris qui se regardent un peu. On sait que la troisième semaine sera très très difficile. C'est là que les plus grosses étapes vont avoir lieu. Donc on essaie de garder un petit peu d'énergie. Je pense pas que ça va s'attaquer pour cette fin d'étape. Il reste encore 51 km en tout cas du côté des favoris. Les échappés qui ont 5 minutes et 30 secondes d'avance. Je vous en parlais de ces trois Français en tête, Valentin Paré-Peintre. On a aussi François Bidard, Warren Barguil qui est là, le coureur lui le mieux classé au général. Mais on va faire attention aussi au champion d'Italie, Filippo Ganna, qui est là, qui pourrait bien lever les bras. On a Bin Illy aussi qui a marqué les esprits lors de la saison des classiques, l'Irlandais qui pourrait très bien gagner également, Carlos Verona. Bref, on a de beaux noms et on aimerait avoir une autre victoire française, et pourquoi pas celle de Valentin Paré-Peintre, lui qui est le petit frère d'Aurélien qui avait gagné sur la quatrième étape. Pourquoi pas le doublé des frérots Paré-Peintre. En tout cas, il reste 51 km à parcourir. On est dans la première ascension du jour, les Cappuccini, 2,8 km avec des passages à plus de 10%. Ça fait déjà mal aux pattes. 51 km et 5 minutes d'avance pour les 13 hommes de tête sur le peloton maillot rose.
À tout à l'heure, Johan, pour la suite de cette 8e étape du Giro d'Italie. À 15h31, le temps, le score sur la pelouse des Mégirales entre Perpignan et Toulouse. Julien.
25 minutes entre les deux formations et c'est toujours l'USAP qui fait la course en tête, 10 à 3 pour les Catalans qui pour le moment défendent très bien dans cette partie sur les temps forts des stades toulousains. Ils arrivent toujours à plaquer ou à intercepter les ballons et pour le moment ils font donc la course en tête et mènent 10 à 3 après 25 minutes de jeu.
Je vous rappelle que c'est Martine sur Ducati Pramac qui a remporté la course sprint du Grand Prix de France Moto. Zarco termine 6e et Fabio Quartararo malheureusement a dû abandonner. Lui qui avait fait une très belle remontée, il était passé de la 13e à la 8e place. Le foot, Quevilly-Rouen face à Bordeaux. On a dépassé la demi-heure de jeu, Christophe Lécuyer.
Ouais, la 32e minute ici à Diochon, 0-0. Le match est arrêté. Christophe, sais-tu pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'un arbitre assistant s'est blessé. L'arbitre assistant de Monsieur Le Paysan va donc devoir procéder à son remplacement. C'est le 4e arbitre qui va officier en tant qu'arbitre assistant désormais. L'équipe médicale est sur le terrain pour prendre des nouvelles évidemment et prendre en charge l'arbitre assistant.
Et 33 minutes de jeu, 0-0. Le deuxième essai des Catalans, signé Lucas Dubois, après encore une fois un très beau mouvement offensif des Catalans sur plusieurs temps de jeu. Cette fois-ci ça part encore une fois d'une touche. On a été chercher le fond d'alignement avec Tristan de la Boutelé, on a été au milieu du terrain avec Georges Tisley, avec d'abord Dorian Laborde qui a joué en pivot, Georges Tisley qui a réussi à faire la différence, et c'est Jacques McIntyre qui au bout adresse une petite merveille de passe au pied dans le dos de la défense du Stade Toulousain pour Lucas Dubois qui va marquer le deuxième essai des Catalans. Cette équipe catalane, elle est quand même réjouissante à voir jouer depuis plusieurs semaines. Elle joue, elle attaque, elle nous propose du jeu, elle fait plaisir au public catalan, et ils ont eu deux situations offensives dans cette première période pour aller deux fois derrière la ligne d'essai, et c'est encore une fois parfaitement construit offensivement cette séquence de l'USAP. 26 minutes 15 à 3 pour les Catalans, transformation à suivre pour Tristan Tedder.
Étonnante équipe catalane qui se faisait bouffer tout cru en début de match et qui là avance désormais, Pierre.
Ouais, ultra réaliste, et ça me fait penser aux déclarations qu'a donné Patrick Arletas dans la semaine. Ouais, et malgré la pression et l'enjeu, ils ne renient pas le jeu. Et on voit qu'ils sont précis, alors même s'ils subissent quand même sur le début de match l'ascendant et le jeu toulousain, à chaque fois qu'ils ont une occasion d'attaque, ils scorent. Et pour l'instant, c'est ce qui leur donne peut-être 14 points d'avance, je crois.
Julien, 17 points. Est passée.
Elle est passée, donc 17 points.
Voilà, donc là c'est pas bien payé maintenant, parce qu'on voit quand même que rien n'est dû au hasard, mais ils sont extrêmement réalistes, même s'ils sont quand même dominés par les Toulousains depuis le début de match.
Les stars toulousaines qui sont sur le banc ou dans les travées font grise, mais on vient de voir Antoine Dupont, Movaca ou encore Romain Tamac qui est en civil, hein, qui n'est même pas sur la feuille de match, mais bon, c'est difficile pour les Toulousains. On rappelle qu'ils sont déjà qualifiés pour les demi-finales, on rappelle qu'il y a eu cette désillusion aussi en demi-finale européenne. C'est difficile de se motiver semaine après semaine quand tu sais que maintenant l'objectif c'est d'aller chercher le titre. Donc là, bon,
il y a un peu de ça, et puis il y a un peu que quand tu sais que tu vas jouer chez à l'extérieur sur une équipe qui joue le maintien, je sais que ça va forcément être dur, mais ils tentent, hein, depuis le début. C'est pas un manque d'implication du Stade Toulousain, mais c'est plutôt un réalisme et une forte détermination côté catalan qui pour l'instant leur amène cet écart-là.
Ils ont plus faim, les Catalans, cet après-midi que les Toulousains. On revient dans quelques instants. Il y a une attaque dans le Giro avec cette montée assez raide, mon cher Johan, qui vient de tenter de...
Bah c'est Benili qui est parti. Ça correspond à ses qualités, ce genre d'ascension rapide mais très raide. T'en parlais, Christophe, il passe en tête au sommet, donc il reste 50 km tout pile à parcourir. Pour l'instant, un seul homme en tête, donc c'est Benili qui a faussé compagnie à tous ses autres compagnons échappé, on a vu.
Toulousain, la révolte, très beau mouvement, hein, ça y est, ils sont passés derrière la ligne avec Arthur Rottière qui est très bon depuis le début de cette partie, qui a lui aussi réussi à accélérer. Il s'est défait des deux derniers défenseurs catalans, il a réussi le petit offload sur Mathis Lebel qui avait déserté son aile opposée avec Marchand, avec Arnold. On a vu le gros paquet d'avant faire les différences, et derrière Arthur Rottière qui a accéléré avec toujours ses petits appuis très rapides, et il se défait de deux défenseurs toulousains. Le magnifique offload derrière pour Mathis Lebel. Et voilà les Toulousains qui répondent immédiatement au deuxième essai des Catalans. La demi-heure de jeu à Aimé Giral, et le Stade Toulousain qui revient à 17 à 8. Transformation à suivre pour Thomas Ramos. J'avais annoncé un après-midi de spectacle. Je pense qu'on ne va pas être déçu. C'est le troisième essai après seulement une demi-heure de jeu.
Exactement, magnifique.
Ça me va mieux, Julien, parce qu'au début, tu avais dit le petit offload. Il bat quand même trois défenseurs, il fait un offload, etc.
Un offload
et il donne un caviar à Mathis Lebel qui fête sa re-signature, hein, parce que je crois qu'il a re-signé au Stade Toulousain jusqu'en 2026. Et non, voilà, on est dans ce qu'on voit depuis le début du match, avec là pour une fois depuis ces 29 premières minutes, depuis cette première demi-heure, du réalisme toulousain et un beau mouvement, tu l'as dit dès le départ, avec ce petit côté de Rory Arnold qui va croiser avec Marchand et derrière ça a déroulé, donc voilà, les Toulousains qui ont retrouvé le chemin du réalisme.
Même si Ramos vient de rater la transformation, c'est passé à droite, c'est assez rare pour être signalé de la part de celui qui joue aujourd'hui à l'ouverture du stade toulousain. 15h37, on revient dans un instant pour la suite de l'Intégral Sport. Martin vainqueur de la course sprint du Grand Prix de France Moto, Teddy Riner et Julia Tolofua en finale tout à l'heure de leur catégorie chez les lourds, chez les garçons et chez les filles. Ce sera sûr à partir de 17h20 sur RMC avec au commentaire Morgan Mori. Et puis 0-0 entre Quevilly-Rouen et Bordeaux, et donc le Giro avec une attaque en tête de peloton. Ça a donné quelque chose, il est toujours devant Benilly.
Toujours devant Benilly, ouais. Il a fait l'écart sur Tom Skuins. Je vous parlais juste de Warren Barguil qui avait un petit peu calé. Warren Barguil touché par le Covid justement, lui avant le Giro, il était revenu quand même testé négatif juste avant le début de ce Tour d'Italie, mais voilà, il cale un peu. C'est Benilly qui est seul en tête, encore 47 km à parcourir exactement.
Allez, à tout à l'heure, il est 15h37, on se retrouve dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
15h42, un nouvel essai entre Perpignan et Toulouse, Julien.
Un essai de Thomas Ramos qui, je pense, ne sera pas loin à la fin de la saison d'avoir le trophée de meilleur joueur de la saison, hein, parce qu'il se l'est fait tout seul encore celui-là, Thomas Ramos. Les Toulousains qui avaient un gros temps fort dans les 22 mètres de l'USAP, mais qui venaient se casser les dents sur la grosse défense des USAPistes. Et puis Thomas Ramos, il est venu jouer à la mêlée et il a vu le petit coup au ras, il a accéléré le crochet pour se défaire de Tristan Teder derrière, aller marquer cet essai qu'il a lui-même transformé. Et Ramos est auteur des 15 points du Stade Toulousain depuis le début de... Ah non, il y a l'essai de Mathis Lebel, 10 points pour Thomas Ramos, mais il est encore une fois étincelant, Pierre, et vraiment il fait une saison incroyable, Thomas Ramos, cette année, et c'est encore lui tout seul qui a été se faire cet essai et qui permet au Stade Toulousain de revenir à 2 points de l'USAP alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans cette première période.
Ah ouais, belle réaction toulousaine, hein, Pierre, ouais. On les sentait un peu en difficulté, les Toulousains, après les deux premiers essais catalans, mais ils ont vite remis les choses au point.
Ouais, pas en difficulté sur deux actions, parce que le reste du temps ils maîtrisaient plutôt leur sujet, mais c'est vrai que ben voilà, ils sont vite revenus à la réponse tout de suite après le scoring des Catalans. Et ben, Thomas Ramos c'est Marathon Man, quoi, le mec, t'as l'impression qu'il joue il joue tous les week-ends à l'arrière en 10.
Il a eu un seul week-end de repos, c'était face au Stade Français, je crois qu'il n'était pas là. Hein.
Excuse-le, le mec, ça fait. Il doit être à 35 matchs.
Mais d'ailleurs,
saison,
il a peut-être un peu payé ses efforts, notamment lors de la demi-finale, parce qu'on l'a senti. Il peut arriver que de temps en temps tu te rates. C'est rare, c'est très rare de sa part. Hein, ça fait très longtemps que c'était pas raté comme ça.
Ouais, après la demi-finale contre le Leinster, c'est un concours de mauvaises circonstances pour Toulouse. Hein. La sortie de Barassi, ils ont fait 6-2. Dupont passe à l'ouverture, il y a l'entrée de Pagès. Enfin, c'est
mal goupillé.
On peut pas dire que soit il prend un carton jaune effectivement Ramos, mais sinon il est quand même toujours hyper régulier.
Et 25 matchs pour Thomas Ramos Pierre cette saison.
Ouais, 25 matchs.
Ce qui m'inquiète un peu.
1800 minutes déjà.
Ce qui m'inquiète un peu, Julien, c'est après, parce que pour avoir fait des saisons à 35 matchs, tu vois, donc ce qui va être à peu près le sien si. Un peu moins.
Derrière, après, il y a la Coupe du Monde. Stage de l'équipe de France, Coupe du Monde.
Pfiou. Espérons qu'il va avoir un bon temps de coupure avant la prépa Coupe du Monde. Mais en tout cas, il est quand même. Tu peux toujours lui trouver des moments où il fera des moins bons matchs.
C'est très rare. Hein,
mais où qu'il joue, il est quand même cette année à un niveau vraiment impressionnant.
Il est monté de 2-3 niveaux.
Tu te rappelles qu'on en avait parlé avec lui à l'époque où Jaminet a signé à Toulouse.
Ouais.
Et lui, il avait dit moi, je vais essayer de garder ma place à Toulouse. Il avait
demandé s'il allait rester.
J'avais Jaminet, Capuzzo et tout. Et il est arrivé. Et pour l'instant, il a mis tout le monde à l'heure.
Très bien.
Il a fait les 8 matchs avec l'équipe de France, géré par le Stade Toulousain. En plus, Hugo Mola l'a quasiment fait souffler à 10 journées pendant le championnat. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de le voir toutes les semaines. Alors que là, il y a un ballon dans l'embut du Stade Toulousain. Et à la course, ça sera parfaitement défendu par Arthur Rothière. Il reste 1 minute 30 à jouer dans cette première période. 17 pour l'USAP, 15 pour le Stade Toulousain.
Très bien. Le foot, Quevilly-Rouen en Bordeaux, on est dans le temps additionnel. Il y a un paquet de temps additionnel quand même, Christophe.
Ouais, hein, il y aura beaucoup de temps additionnel. 6 minutes de temps additionnel sur cette première période. C'est assez exceptionnel. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, eh bien, on a assisté au malaise d'un jeune ramasseur de balles qui s'est subitement effondré au bord de la ligne de touche. Rien de trop grave, visiblement. On l'espère, en tout cas, le jeune ramasseur de balles a été évacué sur civière avant de
rejoindre évidemment les vestiaires. Ouais.
On les enchaîne un petit peu, effectivement, sur cette première période. Rien de trop grave, encore une fois, en tout cas, du moins, on l'espère. Pour le reste, eh bien, les Girondins qui réagissent un petit peu quand même sur cette première période où ils ont été bousculés hein, sur l'entame de la rencontre. Tout à l'heure, ils ont bien failli ouvrir le score. Un corner de Nsimba, une tête de Maja s'est passée juste au-dessus de la barre transversale du but gardé par Nicolas Lemaitre. C'en est tout à peu près, hein, des occasions bordelaises sur cette première période assez compliquée pour les hommes de David Guillon. On est donc dans le temps additionnel, une minute écoulée, il en reste 5. Le score est toujours de 0 à 0.
Les 5 dernières minutes de cette première mi-temps à Quevilly, Rouen face à Bordeaux, le Giro d'Italia. Là aussi, on approche pas tout de suite quand même de l'arrivée, Johan.
Oui, il reste du temps. 42 km encore à parcourir. Un homme en tête, c'est Ben Hilly qui s'est extirpé dès la première difficulté répertoriée du jour dans les Cappuccini. Il a pris une minute d'avance quand même hein, sur ses anciens compagnons d'échappée. Ils sont encore 10 à être en poursuite. On a Valentin Paré-Peintre, on a François Bidard, on a toujours Warren Barguil, Philippe Ozana. Tom Skuins a eu un problème mécanique, il a perdu un petit peu de temps. On a assisté aussi à un mouvement dans le peloton maillot rose avec les Ineos. Hein. Tu sais qu'il y a une grande densité chez les Ineos. Ils sont 4 parmi le top 20. On a eu Pavel Sivakov travailler pour son leader Geraint Thomas ou encore Tao Gegenhardt. Ils ont essayé d'accélérer. Ils n'ont pas fait craquer les favoris. Donc pourquoi pas s'attendre à d'autres accélérations. On est dans la deuxième difficulté du jour. Le Monte delle Cesane restera encore une fois les Cappuccini à gravir. Et pour l'instant, Ben Hilly a fait la différence. 1 minute 10 d'avance pour l'Irlandais, 42 km avant l'arrivée.
C'est terminé, en tous les cas, pour les 40 premières minutes à Perpignan, à Aimé Giral, Julien Landry.
Ouais, la mi-temps a été sifflée sur ce score en faveur de 17 à 15 pour les Catalans qui ont une dernière opportunité dans les 22 mètres. C'est Georges Tisley en bout de ligne qui a été rattrapé par Arthur Autier derrière en avant des Catalans. Et la mi-temps qui a été sifflée alors que Dorian Laborde sort en boitant. Il a fait une première mi-temps surprenante, le centre USAPiste, lui qui n'a pas beaucoup joué pourtant cette saison. Il a été de tous les bons coups dans cette première période, mais là il sort en boitant. Je ne suis pas sûr qu'il puisse reprendre sa place en deuxième période. 17 à 15 pour les Catalans. À mi-temps.
À tout à l'heure, Julien, pour la deuxième période. Pierre, un petit mot, analyse de cette première mi-temps. C'est très serré, hein. Rien n'est fait dans ce match, mais les Toulousains sont pas loin quand même.
D'abord, comme je disais, Julien, on voit vraiment un bon match. Ouais. Hein, ce qui n'est pas, tu sais, c'est pas toujours le cas hein, quand t'as la pression de jouer le maintien. Et des Toulousains qui aussi envoient beaucoup de jeux depuis le début. Mais voilà, le score est finalement assez équilibré, un peu favorable à l'USAP malgré la domination de toulousaine. Mais je pense qu'on va encore se régaler sur la deuxième mi-temps.
Eh bien, vous allez vous régaler. Moi, je vais vous écouter. Voilà l'heure de Flora. Flora's Time qui arrive.
C'est vrai, Christophe?
Bien, et toi, Flora? Bah,
très, très en forme. Contente de...
Elle est pastel, couleur vert pastel, magnifique.
Comme ça, tout le monde peut imaginer dans quelle couleur je me trouve en plateau.
Tout de suite.
Un petit peu couleur pistache. Je suis bien contente de retrouver Pierre dans quelques instants pour la suite de cette deuxième période entre Perpignan et Toulouse. Et puis, on aura évidemment le multi-top 14 avec, en approche de la fin de la saison régulière, hein, le dénouement qui arrive avec des matchs très intéressants au programme. La Ligue 1 aussi qui arrive à 17h avec Strasbourg, Nice, un match capital pour le maintien pour les Strasbourgeois. À tout de suite dans l'Intégral Sport sur RMC.
RMC. Intégral Sport.